Bon matin. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Je remercie Yannick et toute l'équipe pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir de visiter d'autres églises comme ça. Ben, d'autres églises, techniquement, il y a juste une église. Puis de revoir aussi des visages, des gens que j'ai côtoyés dans le passé. Les familles évangéliques au Québec, on sait qu'il y a peut-être juste 2 degrés de séparation, dans le sens que tout le monde connaît quelqu'un d'autre. T'sais, on a tout le temps un ami en commun, peu importe quel évangélique qu'on rencontre. Donc, c'est le fun de voir Luigi puis Mireille, Sam Paradis que j'ai connu quand il était tout petit puis j'étais à Sens Unique. Hein? C'est beaucoup avec Sens Unique que je connais les gens. Annie Dagenet qui a été ma monitrice en un camp artistique à l'église de l'Île-Jésus quand j'avais 10 ans. Puis juste avant le message, elle me rappelait mon cœur de pécheur puis comment j'étais méchant dès la naissance. Merci. C'est bon, l'humilité avant de commencer. Rachel aussi, avec qui on était à l'église évangélique Baptiste Emmanuel dans l'ouest de l'île. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous voir. Puis c'est un honneur et un privilège pour moi d'annoncer la parole. Il y a un prédicateur qui disait, c'est drôle, hein, comment que Satan est comment Satan est sournois, hein, surtout par rapport aux prédicateurs. Ben pas surtout, là, mais je veux dire, quand tu t'en vas pour prêcher, on dirait, il te murmure à l'oreille, hey, t'es qui pour présenter la parole de Dieu? T'es qui, toi, pour annoncer la... T'es rien, t'es pas capable, tu sais. Puis il te met des doutes comme ça, puis il t'attend à la sortie, à la fin de ton message, puis il dit, wow, t'étais vraiment bon. Donc, je me sens toujours un petit peu nerveux d'être ici devant vous ce matin, mais j'espère pouvoir, par la grâce de Dieu, vraiment vous amener dans la parole, dans un texte qui est tellement riche. Yannick m'a demandé au début de prêcher, justement, 17-8 à 18-27. Je dis, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, d'inviter un prédicateur invité, puis lui faire prêcher genre 10% du livre d'Exode, tu sais, fait que... Je me suis concentré sur le chapitre 17 à partir du verset 9. Puis je sais qu'on me disait que le thème de la série, j'essaie de m'insérer dans une série à laquelle je n'ai pas assisté, mais c'est « Dieu est, nous sommes ». Et le thème de ce matin, donc, c'est « Dieu est ma bannière, je cours vers lui ou nous courons vers lui ». Donc, on va commencer par un temps de prière. Ensuite, il va y avoir la lecture. Puis on va plonger dans les Écritures. Éternel Dieu, on est reconnaissant dans le fait que tu nous as donné ta parole, que tu as même donné des instructions claires à tes serviteurs d'écrire et d'enregistrer, de nous léguer, Seigneur, les récits, les souvenirs, Seigneur, de tes œuvres salvifiques pour ton peuple. Seigneur, permets-nous de plonger dans les Écritures ce matin, non seulement en voyant ce passage comme un récit d'une histoire qui s'est achevée il y a bien longtemps, mais de vraiment nous voir nous-mêmes à l'intérieur de cette histoire, de voir ton Fils, Jésus-Christ, glorifié à travers cette bataille. Seigneur, je te prie pour ton Saint-Esprit, c'est toi qui nous éclaire, c'est toi qui illumine nos cœurs, lui permet que vraiment chaque personne ici soit édifiée ce matin, que la parole que tu as à lui dire, malgré moi, Seigneur, puisse lui être révélée pleinement puis concrètement. Seigneur, je te prie de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. En Jésus, je te prie. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Exode au chapitre 17, versets 8 à 16. Alors, Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et il appela « L'Éternel, mon étendard. » Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. »
La parole du Seigneur. Dieu soit béni pour sa parole. C'est vraiment intéressant parce que la structure du passage, qui est le récit d'une bataille, je pense que c'est la première fois, en fait, dans ma jeune vocation que je prêche sur une bataille comme telle. Mais moi, je suis un nerd avec un grand N. Okay? Ça, c'est quelque chose que je peux révéler sur moi. J'aime vraiment écouter... lire sur l'histoire du monde. J'écoute des podcasts. Y a-t-il beaucoup de monde qui écoute des podcasts ici? Pour le fun, moi, quand je passe le balai, je passe la mob, j'écoute l'histoire de Rome ou je suis des cours sur le Moyen-Âge. Puis il y a comme un pattern qu'on utilise pour décrire des batailles. Puis quasiment tous les historiens utilisent ce pattern-là. Et c'est de simplement décrire l'ordre de la bataille, donc le contexte de la bataille, les troupes qui sont en jeu, de voir un petit peu qui c'est qui avait l'avantage, qui c'est qui avait le désavantage. Ensuite, de décrire le combat avec certains détails, puis ensuite d'expliquer les conséquences stratégiques de l'issue de la bataille. Puis le passage qu'on a ce matin suit vraiment ce même pattern-là, ce pattern-là qu'on va suivre ce matin. Donc, c'est une description en trois plans, mais le message se divise vraiment en deux parties. Donc, de plonger sur le récit de la bataille, mais ensuite de voir à travers cette étude-là, de faire ressortir les thèmes, les motifs, les patterns qui vont connecter la Bible d'un couvert à l'autre. Hein. Vous savez que la Bible, c'est un livre, c'est la parole de Dieu, il y a une unité, même si c'est plusieurs différents livres, de plusieurs différents auteurs avec plusieurs différents styles, il y a des thèmes qui traversent les Écritures d'un bout à l'autre. Et il y en a plusieurs dans ce passage très riche ce matin. Donc, on va décrire la bataille, identifier ces thèmes-là, puis ensuite, en seconde partie, vraiment voir comment ces thèmes-là se connectent tous à la personne de Christ, puis conséquemment à nous en tant qu'enfants de Christ, en tant qu'héritiers de la promesse. Donc, le contexte du passage, on commence tout le temps comme ça, c'est Exode 17. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer dans les versets précédents? C'est l'épisode qu'on va appeler la révolte de Massa et de Meriba. Donc, de Massa et de Meriba, le passage dans Hébreu qui décrit... le passage justement dans Exode 17, le verset 7 nous décrit... la raison pourquoi on appelle ce lieu-là Massa et Meriba, vous l'avez sûrement vu la semaine passée, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Donc, le passage que nous étudions vient tout de suite après cette question-là. Est-ce que Dieu est avec nous ou est-ce que Dieu n'est pas avec nous? On a vu dans... On vient de voir dans Exode 17, il vient de se passer, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, une scène tout à fait étrange où parce qu'Israël manque d'eau, après avoir sorti d'Égypte, après avoir été libéré puis sauvé par Dieu, Israël se révolte d'une certaine façon contre Moïse et contre Dieu et passe Moïse et Dieu en jugement. Puis dans une scène où la structure ressemble vraiment à celle d'un tribunal, Dieu va demander à Moïse de se placer devant le rocher sur lequel Dieu va se tenir et de frapper le rocher puis avec son bâton. Puis du rocher sortira cette eau vivifiante. Mais après cet épisode-là, le peuple se pose toujours la question, Dieu est-il avec nous ou Dieu n'y est-il pas? C'est... C'est quand même ironique parce que je veux dire, je pense de toutes les générations qui ont vécu sur la terre, à part peut-être celle qui a marché avec le Christ, je veux dire, quel peuple a vu la main de Dieu plus que ce peuple-là? Je veux dire, c'est une question de jours et de semaines. En fait, le matin, ils ramassent la manne, ils sont libérés d'Égypte, ils ont vécu personnellement la libération de Dieu. Ils ont vu que Dieu a maintenu ses promesses, mais à la première épreuve, à la première tentation dans le désert, le peuple se rebelle contre Dieu. On va voir plus tard qu'on n'est pas si différent que ça. Donc, ce thème de l'incompréhension de la personne de Dieu, c'est un thème qui traverse l'ensemble des Écritures aussi. Malgré une révélation claire de sa part, le peuple répond par incrédulité, endurcissement, mais aussi une méconnaissance de qui Dieu est. Je veux dire, à ce point-là, on ne devrait pas réaliser que Dieu est le Dieu qui tient ses promesses et le Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Je veux dire, est-ce qu'il y a encore besoin de faire ses preuves? Donc, notre passage commence ici. Tout de suite après cette question, le passage nous dit « Amalek vient combattre Israël à Réphidim ». Amalek vient combattre Israël. Dans l'ancienne Louis II, au lieu de parler des Amalécites, on parle littéralement d'Amalek comme une personne. Puis cet usage de personnification est constant dans la Bible. Hein? Israël, c'est le surnom de Jacob. Puis à plusieurs reprises, on parle d'Israël. Israël s'est battu, Israël a vaincu. Mais Israël, comme prénom, représente l'ensemble de la descendance de Jacob et Israël. C'est la même chose pour Amalek. Amalek, qui est un des peuples qui descend d'un des patriarches qu'on trouve dans la Genèse, d'Ésaü, le frère d'Israël. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez de toute l'histoire qui avait eu lieu entre Israël et Ésaü. Israël avait volé la promesse, avait volé le droit d'aînesse à Ésaü, puis s'était sauvé de lui. Puis on voit que Israël ou Jacob va vivre dans une contrée lointaine, va avoir une famille. Puis dans la Genèse, à un moment donné, il va vouloir retourner auprès de son frère. Et là, il y a toute une tension. Comment est-ce que son frère va l'accueillir? Est-ce que son frère va toujours se venger? Est-ce que son frère voudra le détruire? Puis on va voir que, bien que les relations entre lui et son frère ne vont pas devenir chaudes et cordiales, Ésaü va pas tenter de se venger sur Israël. On a 4 siècles qui se poursuivent. Ésaü a un fils qui a un autre fils qui s'appelle Amalek. De son côté, Israël va déménager en Égypte pendant la famine, puis pendant 4 siècles, donc, son peuple, Israël va proliférer, va devenir un peuple nombreux. Et ici, on s'en rend pas compte, on lit juste Amalek attaqua Israël à Réphidim, mais on a vraiment une remise en scène de cette rencontre-là entre Israël et Ésaü, entre le fils de la promesse, puis celui qui a rejeté la promesse de Dieu, qui a négligé la promesse de Dieu. L'histoire, puis la Bible, nous donne un contexte aussi pour comprendre qui est Amalek. On voit que c'est quand Ésaü a reçu la bénédiction d'Isaac, cette deuxième bénédiction-là, Isaac avait prévu que Ésaü deviendrait une tribu nomade qui vivrait de son épée. Et on voit que Amalek, les archéologues nous disent que c'est cette peuplade-là, c'est vraiment un peuple nomade qui vivait dans le secteur de l'Arabie saoudite et qui pillait. C'était vraiment comme les Vikings de l'époque. Ils terrifiaient la région, ils vivaient de leur épée. Puis c'était un peuple guerrier. Lorsque le prophète Balaam va prophétiser sur Israël, plus tard, il va affirmer en préambule qu'Amalek est la première parmi les nations. Et les archéologues nous disent que c'est un des premiers peuples qui a su domestiquer les chameaux. Okay? Bon, pour nous, c'est comme... Et puis après, c'est le fun pour les enfants, ils peuvent flatter les chameaux, mais qu'est-ce que ça change? Mais quand on regarde l'histoire, on voit que chaque changement ou développement technologique va conférer un avantage important sur les peuples qui n'ont pas développé cette technologie-là, juste le développement du fer, on le voit dans l'Ancien Testament, où le peuple qui possède le fer, quand les Philistins possèdent le fer, ceux qui sont encore armés de bronze, ils ne peuvent quasiment rien faire contre ceux qui ont dû faire. Dans la Première Guerre mondiale, quand on a développé les tanks, en l'espace de quelques mois, les troupes allemandes ont été décimées par cette nouvelle technologie-là. Puis même au Moyen-Âge, hein, les Vikings, avec leurs drakkars, étaient capables, dans le fond, avaient un avantage important sur les autres peuples parce qu'ils étaient capables d'arriver de n'importe où, attaquer un endroit peu défendu parce que les armées n'avaient pas le temps de se rendre pour confronter les Vikings. Puis quand ils arrivaient, ben, les Vikings étaient déjà partis avec le butin, ils avaient tout brûlé. Et dans l'Antiquité, la question de la mobilité, c'est super important. Puis quand on regarde l'histoire, on va se rendre compte que les peuples nomades vont avoir terrorisé l'Europe, le Moyen-Orient, jusqu'au 12e, 13e siècle avec les Mongols, puis par la suite les Cosaques. Donc, c'est pas rien, là. C'est un peuple qui est aguerri, qui vit de la guerre, qui est technologiquement supérieur et qui a un bon moral. Et Deutéronome 25 aussi nous dit, en souvenir de cette bataille-là, il dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » De l'autre côté, Israël n'est pas exercé à la guerre. C'est un peuple d'esclaves qui travaillait durement à la construction de bâtiments. Puis quand on regarde le contexte du début d'Exode avec le pharaon qui craignait, qui avait une paranoïa qu'il y ait un soulèvement israélite, on peut croire que les Égyptiens ne les avaient pas vraiment formés à la guerre. Quand ils sont partis en vitesse, puis on croit que la plupart des armes qu'ils possédaient à cette époque-là, c'était des armes qu'ils avaient formées dans le désert avec peu importe qu'est-ce qu'ils ont pu trouver. Donc, quand on suit le pattern historique, puis là, on a l'ordre de bataille, vraiment, si on compare les qualités de base. Donc, en termes de nombre, peut-être qu'Israël avait un avantage. On n'a rien qui nous parle du nombre. Mais en termes de qualité des troupes, Amalek, c'est un peuple exercé à la guerre. En termes d'équipement, l'avantage, encore une fois, était Amalek. En termes de morale, Deutéronome nous dit qu'Israël est épuisé et là, donc Amalek. En termes de terrain, le fait qu'Israël est attaqué par derrière, l'avantage est à Amalek, à la disposition des troupes. Donc, d'un côté, on a une tribu équipée avec la dernière technologie, qui connaît le territoire, qui attaque une tribu, qui a un peuple là, fatigué, puis découragé, parce qu'ils viennent juste de se poser la question, est-ce que Dieu est avec nous ou pas avec nous? Donc, quand on regarderait ça à un point de vue historique, on se dirait, tu sais, je pense que l'issue de la bataille est quand même assez claire. Et je pense que pour Israël aussi, l'issue de la bataille était assez claire. Si on lit ce verset-là rapidement, on va peut-être passer à côté, mais c'est vraiment l'équivalent d'avoir comme les Blues de Saint-Louis. Moi, je connais rien dans le hockey, fait que je sais pas si sont bons les Blues de Saint-Louis ou pas, mais je sais qu'ils sont meilleurs que le Pee-Wee Bay de Valleyfield. Donc, c'est quand même un ordre considérable en termes de combat. Et donc, on voit que Israël pose une question, est-ce que Dieu est avec nous ou il l'est pas? Puis comment est-ce que Dieu répond sur le champ avec une épreuve? Une épreuve qui est pas une vengeance, mais une épreuve qui va viser à amener Israël à travailler sur sa foi. Donc, ce lien-là entre l'épreuve et le doute est aussi un thème qui traverse les Écritures d'un couvert à l'autre. Un autre thème ici, parce qu'on regarde toutes ces choses-là, l'avantage est à Israël, est à Amalek, à moins qu'on oublie de voir un élément que la plupart des historiens ne tiennent pas en compte, mais celui de la promesse. Parce que Israël a reçu la promesse que Ésaü n'a pas eue. Nous, on sait que l'issue de la bataille n'est pas tout à fait le même que ce que les conditions matérielles pourraient nous amener à croire. Le passage poursuit, il parle du combat. Ça dit, « Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au courant de l'épée, au tranchant de l'épée. on voit que Moïse commence à avoir quand même une expérience, l'expérience de travailler avec Dieu. Parce que c'est un petit détail, mais quand on regarde le récit d'Exode, à chaque fois que Moïse utilise son bâton, ou presque, c'est Dieu qui lui dit « utilise ton bâton ». Tu sais, frappe la mer avec ton bâton, frappe la roche avec ton bâton. Puis là, on dirait que Moïse commence à être un petit peu expérimenté, puis dit à Josué « OK, là, je vais prendre mon bâton ». Tu sais, le bâton ou la verge. L'idée d'une arme secrète est assez commune. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu cette histoire-là, vu littéralement, sur le flanellographe. Qui a connu le flanellographe dans l'église? C'est le fun. Y a-t-il encore des flanellographes? Faudrait, hein? Faudrait le laisser faire PowerPoint puis avoir un gros affaire de flanelle. Là. Puis là, t'as Moïse qui arrive, puis le bâton, puis toute la kit. Puis moi, comme enfant, hein, je voyais pas vraiment l'évangile à travers cette histoire-là, mais je me disais, est rendu où la verge de Moïse? Parce que, man, si quelqu'un pouvait mettre la main là-dessus, il pourrait gagner toutes les batailles. C'était vraiment le genre de question qui m'habitait comme enfant. Puis, bon, vous constaterez que c'est une vision quand même plutôt naïve de la verge, le bâton de Moïse n'a aucun pouvoir en soi. C'est son bâton de berger qui tenait dans ses mains quand il a rencontré Dieu. Puis, c'est un objet banal de travail de berger qui servait à marcher, à chasser les prédateurs du troupeau, à ramener les moutons, mais c'est pas quelque chose qui avait une force en soi. En fait, c'est un objet à travers lequel Moïse va effectuer des signes, mais on voit que c'est vraiment l'action de Dieu qui est derrière tout cet objet qui est dans le fond symbolique. Puis, mais l'idée d'amener la verge vers lui, c'est qu'il n'est pas juste comme « OK, je vais utiliser le bâton puissant », mais vraiment, il dit « On va aller intercéder, on va dépendre de Dieu pour cette épreuve-là. » Donc, on voit que Moïse, qui est l'homme plus mature spirituellement, quand il voit l'épreuve venir, ce coup-là, il dit « OK, tout de suite, je vais aller vers l'intercession, on va aller dépendre de Dieu. » Et on voit, c'est quasiment scientifique, hein? On dit la corrélation, corrélation signifie pas nécessairement causation. Il y a pas nécessairement de cause parce que quelque chose arrive simultanément, mais quand tu as comme un cycle comme ça, un moment donné, tu te dis, ouais, il y a quand même une corrélation forte entre quand le bâton est dans les airs puis quand le bâton est en bas. C'est vraiment un signe qui montre que Israël gagnait le combat pas par ses propres forces, mais vraiment par la force de Dieu. Et c'est le but d'envoyer de l'épreuve, une épreuve qui discipline le peuple pour l'amener à travailler sa foi. C'est de voir que Dieu est présent, est actif, puis que la victoire lui appartient. Bien entendu, même si la bataille va bien, puis la bataille est longue, Moïse va avoir besoin d'Aaron et Hur pour l'assister. Et Moïse, le vieux chef d'Israël, demeure dépendant de Dieu, de Josué et des autres. Moïse, bien qu'il dépende de Dieu, intercède pour son peuple. Moi, comme enfant, je me demande aussi la question, pourquoi pas avoir simplement pris la verge puis la donner à Josué? T'sais? Je me semble frapper les Amalécites avec du feu ou quelque chose. Je me semble que ça aurait été plus spectaculaire. Mais le Seigneur veut vraiment utiliser cette épreuve-là pour enseigner quelque chose à son peuple. Donc, on a le thème ici de la verge de Dieu, puis on a aussi le thème de l'intercesseur, hein, du chef d'Israël qui tient le bois, la verge, la colère de Dieu. Il est soutenu par ses deux amis, puis il intercède pour son peuple qui, en bas de la colline, est en train de livrer la bataille. Il y a une image forte, cette composition-là, cette image-là, on va la revoir à plusieurs reprises dans la Bible. Puis il y a même un contraste poétique entre la fermeté des mains de Moïse, puis la déconfiture d'Amalek. Ensuite, on voit le thème, ou la figure du général de Dieu, Josué. Josué apparaît pour la première fois ici dans le passage d'Exode. Et on voit dans le passage que la victoire, qui dépend entièrement de Dieu, là, la victoire est attribuée, malgré tout, à Josué lui-même. C'est une pratique courante dans l'Antiquité, puis dans l'histoire ancienne, d'attribuer les victoires à un général particulier. Je pense dans 2 Chroniques, on dit que Joab avait percé de sa lance 1000 Philistins ou quelque chose comme ça. Puis on s'entend que c'est pas lui qui tout seul faisait des brochettes de Philistins, mais que vraiment c'était le général qui avait gagné une victoire sur un nombre important de Philistins. De la même manière, Le passage nous dit que c'est Josué qui a gagné, qui a défait Amalek, mais vraiment, tout le contexte nous montre que c'est Dieu. Il y a un autre élément qui est aussi commun dans l'Antiquité, c'est soit d'accorder un nom nouveau à un général victorieux. Hein? Un exemple qu'on a de ça, c'est Gédéon. Hein? Vous vous souvenez comment Gédéon était appelé dans l'Ancien Testament? Il était appelé Jérubal, hein? Puis ça, c'est son surnom qui était utilisé parce qu'il avait vaincu Baal, ou il avait renversé l'idole de Baal. Il y a un nom nouveau. Puis plusieurs exégètes croient que justement le nom de Josué, qui signifie littéralement Dieu est mon aide, aurait pu lui être donné à la suite de cette bataille-là. Puis, il me semble que ça serait tout à fait logique de recevoir ce nom-là suite à cette bataille-là. Enfin, les conséquences stratégiques. On arrive à mi-chemin du message. La bataille terminée, Dieu donne ses instructions à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ici, le thème des Écritures, de la parole de Dieu, est vraiment souligné. Puis, c'est vraiment... Pour moi, ça me dépasse de dire... Dieu dit à Moïse, écris ça dans le livre. Et qu'est-ce qu'on est en train de lire ce matin? C'est ce que Moïse a écrit dans le livre. Cette parole-là que Dieu a demandé à Moïse d'écrire il y a 3000 ans, on a le privilège, chacun de nous, de la tenir entre nos mains ce matin. Et on voit que les Écritures sont, d'une certaine façon, certains vont les appeler l'histoire du salut ou l'histoire de l'ensemble des œuvres salvifiques de Dieu. On voit un autre élément aussi ici, le thème de la mémoire. Donc, Moïse va établir un autel que, comme les patriarches faisaient, donc c'est un lieu physique qui va marquer le point de la bataille et il va appeler cet autel-là l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière, le terme hébreu, ce n'est pas nécessairement bannière ou drapeau, mais ça nous fait comprendre ça. Dans le fond, c'était une pôle militaire, hein, puis un grand bâton qui servait de point de ralliement, de point de rassemblement à l'armée. Mais comme ça se dit mieux, l'Éternel, ma bannière, que l'Éternel, mon poteau militaire qui servait de point de ralliement à l'armée, on va garder avec cette traduction d'équivalence dynamique. Mais toujours est-il que Moïse, à la suite de cette bataille-là, va trouver important de garder dans la mémoire d'Israël les actions victorieuses, les actions salvifiques de Dieu. On voit aussi qu'il y a cette succession. Hein, il dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dès que les Écritures apparaissent dans les Écritures, immédiatement, ils sont utilisés pour former la génération suivante de leaders. Tout de suite, les Écritures servent à marquer les actions de Dieu dans le passé, mais à pointer vers les promesses de Dieu dans le futur. Donc, maintenant, comment ça nous parle à nous ce matin, dans le temps qui nous reste? L'ensemble des Écritures sont un tout qui est unifié. Il y a des thèmes qui traversent la Genèse et qui terminent dans l'Apocalypse et qui se rejoignent dans l'ensemble à Christ. Là, on a décrit une bataille, puis peut-être ce matin, vous vous dites, pourquoi je suis venu à l'Église pour qu'on me parle d'une bataille? De toute façon, je savais que l'équipe de Dieu allait gagner. L'équipe de Dieu gagne tout le temps, puis qu'est-ce que je vais ramener chez moi? Ici, on a littéralement neuf thèmes, sujet ou fil que je veux traiter rapidement avec vous. De voir comment ces thèmes-là pointent vers Christ et ultimement pointent vers nous, ou dans le sens, tout pointe vers Christ, mais par extension, en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Christ. Ces éléments-là nous parlent aujourd'hui. Donc, premier thème, est-ce que vous vous souvenez du premier thème? Non, hein, un quiz comme ça. Le thème de l'incompréhension de la personne de Dieu, de ses œuvres, puis du doute. On voit dans Jean 1 que quand Christ, qui est la lumière du monde, est venu dans le monde, les ténèbres ne l'ont point reçu. Puis on voit dans les évangiles ce thème continuel-là, que peu importe ce que Jésus fait, les gens à qui il parle ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Jésus est en train de révéler la personne puis le caractère de Dieu. Puis le monde, aveuglé par les ténèbres, ne reconnaissent pas qui il est. Même ses disciples, hein, puis on voit ses disciples confrontés un peu à la même chose qu'Israël a vécu, dans le sens où, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Jésus dit, est-ce que vous avez amené du pain? Puis là, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis il dit, Jésus est fâché, on a encore oublié le pain. T'sais, ça fait deux fois qu'il multiplie le pain pour la multitude. Puis Jésus leur dit, la première fois, combien il est resté de pain? La deuxième fois, combien il est resté de... Vous ne comprenez pas encore, les gars? Puis on voit que... 1000 ans plus tard, les gens sont toujours aussi durs de compréhension. Les ténèbres ne l'ont point saisi. Et nous aussi, souvent, quand vient l'épreuve dans notre vie, on ne saisit pas l'action de Dieu. On oublie rapidement les promesses de Dieu. On oublie rapidement les gestes concrets que Dieu a posés dans nos propres vies dans le passé. Et je pense qu'on a un devoir de mémoire, un devoir de souvenir. Il y a le passage commençait à Mériba, hein, où on parle que le peuple d'Israël a tenté Dieu. C'est un thème que je trouve quand même étrange, l'idée de tenter Dieu. Hein. Et ça revient à quelques reprises dans les Écritures. Dieu a été tenté d'une certaine façon, parce que bien que les Écritures nous disent que Dieu n'est pas tenté littéralement, Jésus a vécu la tentation dans le désert. Puis dans cet épisode-là, dans Matthieu 4, 7, Satan va demander à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple, puis ces anges vont te rattraper. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Jésus n'a pas été épargné de l'épreuve, n'a pas été épargné de ce défi-là, mais rappelle de ne pas tenter Dieu. Le thème de l'épreuve est toujours lié avec le doute. Et l'épreuve dans la vie du chrétien ne doit pas être vue comme une punition, mais comme une correction. L'épreuve dans notre vie concrète, que ce soit une épreuve financière, que ce soit une épreuve relationnelle avec un époux, une épouse, un enfant, que ce soit une épreuve par rapport même au péché, au doute. L'épreuve, Dieu permet l'épreuve pour nous exercer à lui faire confiance, pour nous exercer à retourner vers lui. C'est l'exercice de la foi. Jacques 1, les versets 2 à 4, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » De même, Pierre écrit dans 1 Pierre 1, les versets 6 à 9, il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Qui traverse des épreuves ici? Qui a déjà traversé une épreuve ici à main levée? Vraiment, vous êtes bénis. Hein? Il y a plein de monde qui n'ont jamais eu d'épreuve. Et qui, quand l'épreuve vient, n'est pas tenté de se poser? La première, moi-même, là, okay, souvent, la première épreuve, la première question, c'est comment, pourquoi Dieu me permet que j'aie une épreuve? Hein? C'est pas notre premier doute, c'est pourquoi Dieu permet ça? On était à Sola la semaine passée, on parlait de la dépression, ceux qui luttent avec ces choses. Ça, c'est une question qu'on se pose. C'est quoi l'utilité pour toi, Seigneur, que je traverse une épreuve de cette façon? La parole de Dieu nous montre que l'épreuve, ce n'est pas un accident, que l'épreuve, ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. L'épreuve, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous amener à travailler notre foi, à nous retourner vers lui. Mais comment est-ce qu'on fait pour se retourner vers lui? Ça nous prend la promesse. Et ça aussi, c'est un autre thème qui est là, dans ce passage-là. Amalek aurait dû vaincre Israël. Toutes les données nous montrent qu'Amalek aurait dû donner une raclée, comme je vous dis, c'est les Blues contre le Pee-Wee de Valley Field. Il me semble, il n'y a pas longtemps, il y avait une présidentielle américaine où on donnait même les mêmes probabilités, là, dans le sens que c'était supposé être une raclée. Mais Israël avait reçu une promesse que Ésaü, que Amalek n'avait pas reçue. Allez pas dire que je suis en train de dire ça de l'élection de Trump, mais je veux dire, le Seigneur donne des épreuves, hein? Et pour quelle raison? Pour bâtir notre foi. Donc, quand on traverse l'épreuve, qu'est-ce qui nous permet de tenir bon? C'est de nous rappeler les promesses de Dieu dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, qui représente le vrai Israël, l'Israël obéissant, l'Israël qui ne remet pas en question le Père, en Jésus-Christ, nous sommes faits héritiers des mêmes promesses. Des promesses dans la vie actuelle, mais aussi dans la vie à venir. Et les forces les plus maléfiques n'ont pas de puissance contre l'Église de Dieu. Même la parole nous dit que le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a un cantique, je ne sais pas si vous chantez ici, c'est un rempart que notre Dieu, est-ce que vous connaissez, c'est un rempart que notre Dieu? C'est un cantique écrit par Martin Luther. Hein? Et il y a un couplet dedans qui dit « Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. » Vraiment, quand Israël regardait Amalek, il n'y avait pas d'ennemi, il n'y avait pas de pire ennemi à affronter dans ces circonstances-là. Et le chant continue, il dit « Sans son secours, bientôt nous serions tous dans un péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. » Celui qui nous sauva, qui est-il Jéhovah? C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. Et donc, le thème de la promesse, une promesse qui est personnelle pour vous aujourd'hui, ce matin, nous rappelle qu'il n'y a aucune épreuve qui est plus forte que ce que Dieu peut nous permettre de passer à travers. Il y a le thème de la verge de Dieu ou le bâton de Dieu qui, juste avant... Le verset 8 est retourné contre Dieu lui-même. Hein? À Horeb, Dieu demande à Moïse de frapper le rocher. Et qui maintenant, après que Dieu a été frappé par la verge de la colère de Dieu, est utilisé comme outil d'intercession. C'est impossible pour moi de ne pas voir le pattern de l'Évangile dans ce passage-là. Le châtiment qui était réservé pour les ennemis de Dieu est maintenant utilisé comme outil d'intercession. Dans Ésaïe 53, on lit « Cependant, en parlant de Jésus-Christ, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Peut-être que tu traverses une épreuve et tu te dis « Moi, l'épreuve que je vis, c'est parce que je suis pécheur, puis je suis au-delà de la grâce de Dieu. » Ou tu penses qu'il y a tout le temps quelque chose que tu dois faire de plus pour te sauver de la colère de Dieu. Mais l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est aussi celle que, en fait, c'est celle que Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à la place de ceux qui la méritaient. Donc, il y a une différence entre la bataille entre Amalek et Israël et la vraie bataille par rapport au péché, parce que celui qui devient l'intercesseur, c'est celui qui est frappé. Et pour moi, l'image de Moïse, hein, sur la colline, affaibli, en dessous du bâton, du bois de la colère de Dieu, mais qui a ses amis autour de lui, est un contraste frappant avec l'image qu'on va voir 1000 ans plus tard de Jésus-Christ pendu au bois. Un symbole de la colère de Dieu, même dans Deutéronome, hein, qui dit « Maudit est celui qui est pendu au bois. » Lui, au lieu d'avoir deux amis à sa gauche et à sa droite, il va avoir deux brigands crucifiés comme lui. Ses amis se sont sauvés. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intercéder, non pas pour son propre peuple, seulement, ben, il va intercéder pour son propre peuple, mais il va intercéder pour ceux qui l'ont crucifié, pour ses ennemis. Ce que ça devrait nous enseigner, c'est qu'il n'y a pas de limite possible à l'amour de Dieu. Ceux-mêmes qui l'ont crucifié, Dieu est en train d'intercéder pour eux. Et il n'y a personne qui est au-delà de la grâce, il n'y a personne qui est au-delà de la possibilité de se repentir et croire, puis recevoir cette faveur-là de Jésus-Christ. Hébreux nous dit qu'aujourd'hui même, Jésus est au ciel, il intercède en notre faveur. Et alors que nous-mêmes, on est en train de se battre dans la vallée, on a un médiateur entre nous et Dieu qui est en train de intercéder auprès de Dieu en notre faveur. Et qui fait qu'il n'y a aucune épreuve qui est trop forte pour nous. La figure du général de Dieu. Hein? C'est, Josué, c'est une figure de Christ. Littéralement, Josué, c'est le prénom de Jésus. C'est cette déformation, mais c'est le même nom. C'est Yeshua, c'est Josué. Dieu, la victoire. Mais c'est aussi une figure du croyant. Nous aussi, on dépend de l'intercession. Nous aussi, on est dans une bataille à laquelle on participe. On a besoin de se lever le matin, on a besoin de se retrousser les manches, on a besoin de se battre, mais on a besoin de reconnaître que si on n'a pas Jésus-Christ qui est en train d'intercéder pour nous en ce moment même, ça ne sert à rien. Qui, dans l'épreuve, a le réflexe d'aller à la prière? Moi-même, je dois confesser, quand c'est difficile, je me dis, « Oh boy, il va falloir que je travaille plus fort, il va falloir que je me batte plus fort. » Et ça serait facile, comme Josué, hein, d'avoir notre épée en bas ou notre bâton, parce qu'on était mal équipé en plus, puis dire, « Hey, l'ennemi est là, il faut que je travaille d'autant plus fort. » Il faut se battre, il faut travailler. Mais on voit que quand Moïse essaie d'intercéder, peu importe l'effort que Josué mettait, il était vaincu. Et quand Moïse intercédait, peu importe l'avantage qu'Amalek possédait, Josué et son armée étaient victorieux. Il me semble c'est pour nous que ces choses ont été écrites. Hein? C'est ça qu'on voit dans le thème des Écritures, que ces actions-là de Dieu n'ont pas été écrites seulement pour Josué, n'ont pas été seulement écrites pour Israël, mais ont été écrites pour nous aujourd'hui, afin qu'elles nous parlent et qu'elles nous instruisent. Septièmement, le thème des Écritures, c'est le récit donc des actes salvifiques de Dieu et c'est utile pour nous. Et c'est utilisé dès le début pour former ces leaders. Je reviens souvent au passage de 2 Timothée 2:2 hein, qui nous dit « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. » Le besoin des Écritures dans la vie du croyant. Quand je vous dis les promesses de Dieu sont pour vous aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu si on ne connaît pas les promesses de Dieu? Puis comment est-ce qu'on peut saisir les promesses de Dieu si on ne les porte pas dans notre cœur? Les Écritures sont le moyen de nous rappeler des promesses de Dieu. Il y a le thème de la mémoire, l'Éternel, l'autel qui est bâti, l'Éternel, ma bannière. Et je pense que des fois, comme baptiste, on met une grosse emphase sur la parole de Dieu et c'est super. Mais on a aussi besoin de mettre des autels dans notre propre vie. Des points où on se souvient des moments où Dieu nous a secourus. Et c'est tellement facile. Hein? Des fois, on passe à travers la conversion. On le voit souvent. Hein? Ceux qui sont venus au Seigneur récemment, tu te convertis, tu es tout feu, tout flamme, tu as des épreuves. Puis à un moment donné, c'est comme tu oublies tout ce que Dieu t'a donné. Tu oublies les victoires que tu as eues sur des péchés par rapport auxquels tu étais impuissant. Tu oublies des grâces que tu as reçues de Dieu. Donc, on doit se retourner vers les épreuves, mais on doit aussi bâtir des autels dans notre vie, des autels qui déclarent que l'Éternel est notre bannière, que l'Éternel est celui qui nous a sauvés. Puis, je termine, neuvièmement, j'ai toujours voulu dans une prédication dire neuvièmement, donc je peux cocher ça sur ma liste. Le thème de l'inimité, c'est le dernier passage dans Exode 17. Ça dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Il y a ce pattern-là qui est constant dans les Écritures du « déjà » et « pas encore hein? ». Vous avez déjà entendu ce thème-là? Où la victoire sur Amalek a été donnée. Et Dieu a fait la promesse, Amalek, on n'entendra plus parler, il va être effacé. Puis c'est vrai, hein, les seules choses qu'on se souvient de lui, c'est à travers les Écritures. Mais il va avoir une inimité. Et cette inimité-là, elle va se poursuivre dans le temps jusqu'à ce que Dieu l'écrase. Dans Deutéronome 29, 19, ça dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, est prêt à avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel. » Que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Jésus a déjà vaincu la bataille sur notre plus grand ennemi. Mais 1 Corinthiens 15, 20 à 26 nous fait cet écho-là de la victoire de Christ qui est faite, mais qui n'est pas encore tout à fait accomplie. Ça dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Les prémices
Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je sais que vous allez avoir un service funéraire cet après-midi. Et il y a un espoir pour ceux qui croient que même le pire ennemi, celui auquel on va tous devoir faire face, a déjà été atterré par Christ et va être vaincu. Les promesses de Dieu n'ont pas de limite. Et je vous invite à les saisir pour vous. Si ce matin, vous avez entendu parler de Christ depuis longtemps, mais vous ne reconnaissez pas ou vous avez de la misère à faire le pont entre vous et ces promesses-là, je vous invite vraiment à aller voir un des membres du staff, à aller voir un des pasteurs. Moi-même, je vais rester un peu après le service. Mais je vous invite à prendre ces promesses sur vous. Prions. Seigneur Dieu, tu as vaincu la mort. Tu as livré la bataille à notre place. Nous qui devions recevoir le châtiment, nous qui avons répondu à ta grâce, souvent par le doute, par l'incompréhension, par l'incrédulité, tu nous as fait grâce. Par ton Fils Jésus, tu as reçu le châtiment qui nous était réservé. Et maintenant, tu intercèdes pour nous, aujourd'hui. Seigneur, pardonne-nous d'être des serviteurs oublieux. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier tellement rapidement les promesses que tu nous as faites. Pardonne-nous de négliger les Écritures dans notre vie quotidienne. Pardonne-nous, Seigneur, d'oublier l'Évangile, la nouvelle identité que tu nous donnes en Christ. Et Seigneur, permets-nous, par ta grâce, de demeurer fermement appuyés sur tes promesses. Permets-nous, Seigneur, de nous encourager, de nous exhorter, de nous soutenir les uns les autres. C'est en Jésus que je te prie ces choses. Amen.